Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 14 pour notre méditation de ce dimanche. Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 14, que je vais vous lire au nom de Jésus. Je regardais encore et j'entendis un grand nombre d'anges. Il en avait des milliers et des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et chantaient d'une voix forte. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. J'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, toutes les créatures de l'univers entier qui chantaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la puissance pour toujours. » Les quatre êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se mirent à genoux et adorèrent. Amen. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous dire ceci comme introduction. Les livres de la Bible n'ont pas été classés selon leur datation, leur date, ni en fonction d'un ordre chronologique. Si on a mis Genèse au tout début, ce n'est pas parce que c'est le premier livre qui a été écrit. Non. Et si on a mis l'Apocalypse à la fin, ce n'est pas parce que c'est le dernier. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Par exemple, ici, dans ce livre de l'Apocalypse, même si ce n'est pas mentionné dans ce texte, mais on aura besoin de cette référence, il y a un passage qui parle d'une histoire qui se passait bien avant la création du monde, et pourtant c'est écrit dans l'Apocalypse. Une situation qui s'est déroulée avant que le monde existait, et seul l'Apocalypse qui le dit, et vous ne trouvez pas ça ailleurs, et c'est bizarre. Voici ce qui est dit en question dans l'Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, et on aura besoin de ce texte après. « Il y eut alors une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon, c'est-à-dire le diable. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas la plus forte. Et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre et ses anges ils furent jetés avec lui. » Donc le diable, quand il a été jeté sur la terre, ce n'est pas seulement l'être humain qui a eu un impact, mais toute la terre et tout ce qui habite. Et c'est mentionné ici dans notre passage ce matin. On a toujours réduit le salut qu'à l'être humain. Mais qu'en est-il de la création, la planète, les plantes, les animaux et autres? Cela peut donner et peut étonner le lecteur de la Bible que le livre, le dernier livre, parle d'une chose qui s'est passée avant la création, c'est-à-dire avant Genèse. Et quand on parle du récit de la création, forcément nous avons en tête l'histoire de la création dans le livre de la Genèse, chapitres 1 et 2. Le texte que nous avons aujourd'hui fait justement allusion à des éléments de la création dans le livre de la Genèse. Il parle de les quatre êtres vivants. À savoir, quand on lit le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qu'il faut bien faire attention dans l'interprétation, tout est symbolique et métaphorique. La symbolique apocalyptique, le chiffre 4, dans la symbolique apocalyptique, symbolise les quatre coins du monde. On parle du monde. Donc, quand il parle des quatre êtres vivants, c'est toute la création. toutes les créatures vivantes, toutes les espèces confondues, la terre, l'univers, les animaux, tout ce qui y est. Et ça parle aussi de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre et sous la mer. C'est ce qui est mentionné ici. Ça parle aussi des anges. Il est mentionné, il a vu des milliers d'anges. Et rappelez-vous, dans la Genèse, on retrouve aussi les chérubins dans le jardin d'Éden. Regardez bien le parallélisme avec le récit de la création et la vision de Jean ici dans l'Apocalypse. Tous ces éléments nous montrent que dans ce texte que nous avons aujourd'hui, ici sous nos yeux, on a, moi en tout cas, j'ai eu l'impression, en lisant ce passage, que la boucle est bouclée, au tout début et à la fin. Qu'en est-il vraiment de la fin, le jour de la rédemption ? C'est-à-dire quand Jésus, qui est montré comme l'étant l'agneau pascal sur son trône, il a vaincu la mort. Mais non seulement la mort, mais il a vaincu la malédiction qui a rendu le monde esclave du péché. La terre tout entière, toute la création a été réconciliée avec son Créateur. Rappelez-vous au moment où Jésus avait dit « Tout est accompli », il faisait noir. Comment comprendre ce moment ? C'est comme si on faisait une grande réinitialisation, comme on dit, le Great Reset. C'est un mot qu'on utilise beaucoup dans le monde de la finance aujourd'hui. La réinitialisation, c'est-à-dire comme si on remettait le compteur à zéro. Au moment de la création, il n'y avait que les ténèbres. Tout est redémarré à zéro. C'est-à-dire que la rédemption a remis les choses à sa place. Tout est nouveau. Et au verset 12, il dit « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir toutes les puissances qui existent dans le monde, toutes les richesses, c'est-à-dire ce que nous voyons dans le monde, la sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Tout ça lui appartient. » Et ce qui caractérise la puissance, la richesse, la force de cet agneau et qui se dresse sur le trône, c'est parce qu'il est le seul à réussir à remettre la nature, le monde et toutes ses créatures à être à nouveau sous la souveraineté de Dieu. Si vous lisez comment vous comprenez les récits de miracles dans les évangiles, Jésus qui marchait sur l'eau, Jésus qui multipliait les pains, Jésus qui guérissait les malades, Jésus qui ressuscitait Lazare, ce n'est pas une démonstration de force, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une façon de dire « regardez, je suis de quoi je suis capable ». Non, on montre que la création peut être régénérée, le malade peut redevenir en bonne santé, la faim qui fait partie de la malédiction peut être éradiquée, la mort aussi peut être vaincue. C'est ce qui est transmis derrière tous ces messages de miracle. Ce n'est pas le miracle en soi qui est le plus important, c'est le message derrière. C'est lui qui a toute l'autorité et a remis tout cela au pied du Père. Et au moment où il a rendu son dernier souffle, c'est comme s'il a remis tout ça au pied du Créateur. Voilà, le monde est à nouveau réconcilié à toi, Père. Il a dit « Tout est accompli, tout est revenu à la normale, grâce à l'agneau pascal. » Et cette terre que Dieu lui-même a créée à cause du péché est devenue maudite lorsque le péché est entré dans le monde, dans le sens où elle devient rebelle contre son Créateur, à commencer par l'homme, grand H, mais aussi la nature. La nature ne suit plus son cours normal. Et on voit bien dans les changements climatiques tout ce qui se passe dans ce monde. Les êtres vivants, il y a des anomalies qu'on ne sait pas comprendre. Tout cela revient au pied du trône, qui est aussi l'image symbolique de l'autorité divine. Mais dans tout ce décor, même si on dit que tous les êtres vivants qui puissent exister viennent se prosterner devant le trône de Dieu, j'ai remarqué qu'il manque un être qui est le grand absent dans tout cela. Saurez-vous qui est cet être-là ? Qui n'est pas présent. Ici, on cite les anges, les poissons, la nature, l'être humain, les anciens, se prosternent devant l'agneau. Mais il y a un grand absent qui n'est pas là. Qui est cet être-là ? Le diable. Oui. Et pourtant, il fait partie de la création de Dieu. C'est pour ça que j'ai cité l'Apocalypse 12, au verset 9. « Il fut jeté à bas le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui appelait le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre et ses anges y furent jetés avec lui. » Cet être-là, même s'il tremble, oui, le diable tremble devant l'autorité de Dieu. Le diable a peur de la face de Dieu, mais le diable n'accepterait jamais de porter allégeance à Dieu. Le diable n'acceptera jamais de se prosterner devant Dieu. Au contraire, il a tenté le contraire. Si tu es le Fils de Dieu, si tu veux avoir tout cela, agenouille-toi devant moi. C'était toujours son fantasme que Dieu s'agenouille devant lui. Regardez, il veut toujours la place de Dieu. Tous les êtres humains doivent se prosterner devant le trône de Dieu et lui veut que Dieu se prosterne devant lui. C'est pour cette raison que la rédemption que nous attendons tous, ça c'est le moment ultime. C'est pour cette raison qu'il n'y a qu'une chose à faire, une seule chose. Lors de la fin des temps, Dieu va l'enfermer dans la damnation éternelle. Sinon, elle continuera toujours à faire rebeller la création contre son Dieu. Hier, à Farcelles, nous avons eu notre moment de partage. Étonnamment, le lien se fait tout seul. On a parlé de cette thématique pour dire que ce monde est encore sous le joug du mal, grand thème, le mal personnifié. Qu'on le veuille ou non, qu'on le croit ou pas, ou on refuse de le croire, le monde est encore sous la domination du mal, grand thème. Mais le jour viendra, et ce que nous attendrions, qui sera enfermé une bonne fois pour toutes. C'est ce que nous attendons avec foi et espérance. Si nous lisons bien le texte, l'agneau qui est sur le trône, regardez bien l'image, elle est magnifique. Vous avez peut-être vu sur Internet ou dans un tableau qui a été représenté l'agneau, un agneau si fragile, si petit, et pourtant tous les êtres s'agenouillent devant cet agneau. Il y a un contraste, c'est pas normal. Normalement, on devait voir un grand roi avec toute sa puissance et sa cohorte avec. Et c'est normal que tout le monde s'agenouille devant. Mais ici, c'est un agneau pascal en plus, c'est-à-dire un agneau qui a souffert, un agneau qui est mort, et bien sûr qui est ressuscité d'entre les morts. Mais c'est cette image que Jean a vue. Ce n'est pas un Dieu tout-puissant, mais un agneau. Quelle est l'image derrière ? Quel est le message derrière tout cela ? Malgré sa toute-puissance, il laisse le choix à tous les êtres humains, à tout être, de se prosterner devant lui ou pas. Il ne fait pas de menace ni de pression. « Tu dois t'agenouiller devant moi. » Ce n'est pas notre Dieu qui fait cela. Il laisse une marge de manœuvre à qui que ce soit par rapport à lui. Voilà l'image de l'agneau. Il y a ce paradoxe en Dieu. Un Dieu tout-puissant, un Dieu vainqueur sur la mort, mais un Dieu qui n'écrase pas son adversaire. Un Dieu qui n'oblige pas le monde à s'agenouiller devant lui, même s'il a les moyens de le faire. Les puissants de ce monde, dès qu'ils ont les moyens de le faire, ils ne vont pas demander ton avis. Ils vont t'obliger à t'agenouiller devant lui. C'est chacun en son âme et conscience individuellement qu'il doit reconnaître. Et comme il est dit ici deux fois, à Dieu soit la gloire, à celui qui est assis, les êtres dans le ciel et les êtres sur terre. Chacun avait fait une sorte de confession de foi. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. Étonnamment, tout le monde d'une seule voix avait prononcé cela. Comme s'ils avaient fait une répétition générale d'un culte télévisé. Allez, des milliers de personnes unies et ont dit cette phrase. À nous aussi aujourd'hui. Est-ce que nous avons un cœur à prosterner devant Dieu? Ou avons-nous quand même en nous, quelque part, quelque chose de rebelle? C'est facile de dire, non, moi je me prosterne devant Dieu. Mais analyse-toi d'abord. Mets-toi face à Dieu. Est-ce qu'il y a encore une forme de rébellion en toi? Tu n'acceptes pas encore sa souveraineté totale. Tu te dis, cette partie-là m'appartient. Ça, c'est mon jardin secret. Dieu n'a pas autorité sur telle partie de ma vie. C'est moi qui décide à tel moment. C'est moi. Jusqu'où prosternons-nous devant lui? Avons-nous des conditions à lui donner? Ou est-ce que nous nous abandonnions, comme tous ces êtres vivants, face au trône, à l'agneau pascal? Mais sache que c'est l'agneau de Dieu qui est devant toi. Ce n'est pas le Dieu inquisiteur, ce n'est pas le Dieu qui t'oblige, mais c'est l'agneau pascal qui a vaincu la mort pour toi et qui t'aime réellement. Amen.